toujours un plaisir et une bénédiction de me retrouver parmi vous. Et franchement, c'est la compagnie des frères et des sœurs qui est toujours le plus réjouissant dans ce monde. Et nous pouvons nous voir, nous parler, nous raconter nos petites misères ou nos grandes misères. Nous pouvons nous raconter nos grands bonheurs ou nos petits bonheurs aussi. Merci de cette communion fraternelle que j'éprouve chaque fois que je viens aussi parmi vous. Bien que je ne sois pas de votre Église, mais d'une autre. Et Seigneur, le Seigneur sait que nous sommes tous, les uns et les autres, enfants de Dieu, et que cette communion fraternelle est précieuse, et que c'est grâce à lui que nous pouvons l'éprouver. Nous allons poursuivre cette lecture du livre de Timothée, de la deuxième lettre à Timothée. Excusez-moi, je suis un peu troublé, là. C'est le chant de tout à l'heure. On le chante plus souvent, ce chant-là. La Sainte Guerre, soldats en avant, c'est un cri qu'on entend plus souvent dans les églises. Alors, 2 Timothée, chapitre 3. Nous lirons, pour commencer, les 5 premiers versets. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leurs passions et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Paul est emprisonné à Rome. Paul est emprisonné à Rome et il sait que ses jours sont comptés lorsqu'il écrit cette deuxième lettre à Timothée. Il sait que sa fin approche, il sait qu'il n'aura pas cette fois-ci de libération après sa condamnation, et il considère qu'il vit dans les derniers jours, dans la période finale de l'histoire. Quelles que soient les traductions, c'est toujours la même idée, il vit dans ses derniers jours. C'est une période qui a commencé dès la Pentecôte chrétienne, et Pierre, l'apôtre Pierre, lorsqu'il fait son discours de Pentecôte, le dit déjà, c'est ici ce qu'a écrit le prophète Joël, dans les derniers temps il y aura... Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et donc, cette période finale de l'histoire, ça fait déjà plus de 2000 ans qu'elle est commencée. Mais c'est toujours la période finale de l'histoire. Et le plus dur dans cette période finale de l'histoire, c'est de rester concentré, de rester vigilant. C'est pour ça que j'ai aimé ce chant de tout à l'heure, la lutte suprême. La lutte suprême, elle a déjà été remportée par Jésus. Mais ça n'empêche pas que nous devons combattre comme il a combattu lui aussi. La situation s'est aggravée pour l'apôtre Paul. C'est la fin du 1er siècle, presque, pas encore tout à fait, on est avant les années 70, mais c'est la fin du 1er siècle et dans cette période finale de l'histoire, c'est l'empereur Néron qui règne. Et ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau pour l'apôtre Paul, ce n'est pas un cadeau pour les chrétiens en général, et ils auront à en faire la dure leçon. Dans cette période, nous voyons Paul faire une liste des péchés de ceux qui l'entourent. Je ne reviendrai pas en détail sur tous ces péchés. Nous les connaissons, ces péchés, nous les côtoyons. Ils sont dans nos rues, ils sont dans nos gares, dans nos aéroports, ils sont sur tous les écrans que nous voyons. Il y a simplement un thème qui ressort dans cette liste de péchés, c'est l'amour. Je dis cela intentionnellement parce qu'aujourd'hui, on nous prêche l'amour des autres, alors que cet amour cache bien plus souvent des péchés que des élans de bienveillance. Et nous voyons que ces gens dont parle l'apôtre Paul, eh bien, ils sont égoïstes, c'est-à-dire qu'ils s'aiment eux-mêmes. Leur amour est centré sur eux-mêmes et pas sur les autres. Il est question de ces gens qui sont amis de l'argent, ils sont cupides, c'est-à-dire leur amour se porte sur les choses matérielles, sur les propriétés, sur les possessions. Et puis nous voyons aussi qu'ils aiment les plaisirs, à Ça, nous connaissons hein, autour de nous. C'est vraiment l'ambiance que nous vivons. Ils aiment leur plaisir, les plaisirs, pas les plaisirs des autres, hein, leur plaisir plutôt que Dieu. Donc, ils n'aiment pas les autres, ils n'aiment pas Dieu. Ils blasphèment, même on le voit dans ce texte. Ils parlent méchamment contre Dieu. Et c'est vraiment la pire engeance qu'on puisse connaître. Alors, peut-être vous connaissez des gens comme ça, mais tout le monde n'est pas comme ça autour de nous. En tout cas, pas ouvertement. Il y a des gens qui font bonne figure, comme on dit, et qui ont aussi ces choses-là au fond d'eux. Détourne-toi de ces gens-là, dit l'apôtre Paul à Timothée. Ça veut dire quoi ? On doit se retirer du monde ? C'est justement pas ce que Jésus voulait. Je ne te demande pas, mon Père, de les retirer du monde, je te demande de les préserver du mal. Donc ils doivent et nous devons rester dans le monde, environnés de tous ces péchés qui grouillent et qui se tapissent dans l'ombre quelquefois. Mais soyons, si nous devons être vigilants, nous ne devons pas non plus être dépourvus d'amour. Pas le même amour que ces gens qui nous sont décrits, mais l'amour pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire « détourne-toi de ces gens-là » Est-ce qu'il faut les fuir? Est-ce qu'il faut les rejeter? Il y a un passage dans l'Évangile selon Matthieu où Jésus parle de quelqu'un qui refuse de se repentir. Il refuse toute tentative de pardonner et de se réconcilier avec quelqu'un. Et à la fin, Jésus dit « qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain ». Alors, un païen, un publicain, c'était les races détestées par les juifs. Hein. Les juifs, eux, étaient purs, sans péché, n'est-ce pas? Et les autres, les païens et les publicains, c'était des gens qu'il fallait rejeter. Est-ce que Jésus dit qu'il faut rejeter ceux qui ne sont pas, qui ne font pas partie du peuple de Dieu? Vous croyez ça, vous?
Non.
Merci pour le nom. Eh bien non, Jésus ne dit pas de rejeter ces gens-là. Parce que les païens et les publicains, c'est les gens vers lesquels il est allé. C'est pas les gens qu'il a rejetés. C'est les gens à qui il est venu parler du royaume de Dieu. Ces gens-là, il a essayé de les conquérir. Il n'a pas essayé de les renvoyer en enfer. Alors, détourne-toi de ces gens-là, comme dit Paul à Timothée, ça ne veut pas dire rejette-les en enfer. Ça veut dire détourne-toi de leur manière d'agir. N'agis pas comme ils font. N'est pas le même amour qu'ils ont pour eux-mêmes, pour leur plaisir et pour l'argent. Mais pour autant, va vers eux avec amour pour leur annoncer le Christ. Il y a aussi d'autres passages, j'y reviendrai pas. Donc nous devons rester veillants, mais nous devons rester aussi bienveillants. Nous devons rester vigilants, lucides, mais aussi aimants. C'est pas facile comme position à tenir. Hein. Nous devons savoir que l'ennemi est partout, et pourtant nous ne devons traiter personne en ennemi. C'est exactement ce que Jésus nous demande. C'est exactement ce que Paul demande à Timothée. Il l'a placé au milieu d'une fournaise. Il l'a laissé à Éphèse. À Éphèse, c'est pas une ville facile. Alors remarquez, les autres églises sont pas dans des villes faciles non plus. Hein. Ceux qui étaient à Corinthe n'avaient pas la vie facile non plus. Mais à Éphèse, rappelez-vous, c'est la ville de la déesse Artémis, c'est la ville vouée au culte d'une idole. Ceux qui essayent d'entraver ce culte sont destinés à être condamnés, à aller au tribunal, à être exécutés. Et puis c'est une ville où il y a de la magie, de l'occultisme, etc. C'est une ville vraiment pourrie, excusez-moi l'expression. C'est pas une ville pour les chrétiens, hein. Ils auraient bien fait d'étaler de là. Et pourtant, parmi ces gens, eh bien, il y a eu des conversions. L'apôtre Paul a eu l'occasion de voir des gens se convertir, prendre leurs livres de magie et les jeter au feu. Et cette église-là, qui est née dans la souffrance, c'est une église dont on entend parler dans le début du livre des Actes, c'est dans le deuxième voyage de Paul, et dont on entend parler encore dans l'Apocalypse. Cette église d'Éphèse, c'est une église qui a quand même attiré l'attention. Vous savez que la plupart des gens qui se sont convertis en Asie mineure, c'était en Turquie, quoi, eh bien, ce sont des gens qui ont entendu l'évangile à Éphèse. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Eh bien, cette église, elle est au milieu d'un monde perdu. Et on pourrait croire que ici, Jésus ne décrit que ce qui se passe à l'extérieur de l'église. Vous voyez, ici, on est bien entre nous. Hein. Ouais, derrière les portes, c'est l'enfer. Hein. Mais ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Ce que dit Paul à Timothée, ça n'est pas de se détourner des gens de l'extérieur, qui sont païens et péagés, etc. Il demande de se détourner de gens qui, à l'intérieur, sont comme ça. Et ça se poursuit. On va lire les versets suivants. Versets 6 à 9. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même, autrefois, Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et ils sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Donc Paul ne parle pas essentiellement des gens de l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, on le sait, on le redoute, on le combat quelquefois. Mais ce qui se passe à l'intérieur passe quelquefois inaperçu. En réalité, Paul parle ici de loups qui se sont introduits dans la bergerie, de loups qui se sont déguisés en brebis et qui sont à l'intérieur. Ceux dont Paul épingle la dégradation morale ne sont pas autour de l'Église, mais ils sont dans l'Église. Ce sont des enseignants hypocrites, manipulateurs, des loups déguisés en brebis, je l'ai dit. Et Paul avait déjà averti les Éphésiens contre ça. Lorsqu'il leur dit adieu, il sait qu'il va partir pour Rome. Lorsqu'il leur dit adieu, il les rassemble sur une plage à Milet, les anciens de l'église d'Éphèse. Et c'est exactement ce qu'il leur annonce. Il prophétise en quelque sorte, il fait cette prédiction. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau. J'écris trop petit, excusez-moi. J'ai changé de lunettes pourtant. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Alors non seulement ce sont des gens qui sont dans l'Église, mais ce ne sont pas des gens qui sont venus de l'extérieur dans l'Église. Ce sont des gens qui étaient, ils étaient parmi nous mais ils n'étaient pas des nôtres, dira l'apôtre Jean. Ils étaient parmi nous et ils n'étaient pas de nôtres. Est-ce que nous devons encore redouter ça ? Ah oui, je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit dans la salle, hein, ce n'est pas mon objectif. Mais ce genre de personnages peuvent exister dans toutes les églises. Il y a des moments où il y a des dérapages. Et ces dérapages, il faut pouvoir les contrôler. Pas mettre les gens dehors, ni les rejeter, mais contrôler les dérapages qu'il peut y avoir. Et on verra qu'il y a pour ça une pierre de touche qui est toujours... d'actualité. Alors ce sont des tartuffes. Il y a Molière qui a bien su mettre en scène ces gens-là. Ils paraissent zélés pour Dieu, mais en réalité ils sont cupides, vantards, prétentieux, centrés sur eux-mêmes, ils aiment leur plaisir plus que Dieu. C'est de eux que Paul parle. Hein. Ce n'est pas des gens de l'extérieur. Ils ont l'intelligence faussée, obscurcie, et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi dont ils n'ont que l'apparence. Attachés à leur propre gloire plutôt qu'à celle de Dieu, Ils mettent en avant leurs propres œuvres et détournent des naïfs de la personne de Jésus, de son enseignement, du salut qu'il nous offre par sa mort. Vous n'avez jamais entendu des prédicateurs comme ça, vous ? Moi aussi. Prédicateurs qui viennent, ils n'ouvrent même pas la Bible. Parfois, ils citent un verset. Mais alors, ils racontent leurs expériences. J'étais là-bas et puis le Seigneur nous a puissamment aidés. J'étais là-bas, nous avons eu des difficultés, mais nous en sommes sortis grâce au Seigneur. J'étais là-bas, j'ai eu un accident, et heureusement, le Seigneur était là. Et puis quand ces personnes-là ont fini leur sermon, vous savez tout de leur vie. Ça vous est jamais arrivé ? Si, ben voilà, je ne suis pas le seul. Et puis, au bout du compte, ils n'ont pas parlé de Jésus-Christ une seule fois. Ils n'ont parlé que de ce que Jésus-Christ avait fait pour eux. Ouais. Une façon détournée de dire, voilà, comme je suis un brillant chrétien, n'est-ce pas ? comment j'ai pu traverser les épreuves, comment j'ai été béni par Dieu. Méfions-nous de ces gens-là. D'abord, ceux qui n'ouvrent pas la Bible. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a des gens qui n'ouvrent plus la Bible aujourd'hui parce qu'ils ont un smartphone. Il y a des gens qui n'ouvrent plus la Bible parce qu'on projette les textes bibliques sur le mur derrière le prédicateur pour éviter qu'on ouvre la Bible. Mais quand même, c'était pratique de voir les gens tourner les pages. Oui, celui-là, il suit. Celui-là, il écoute. Celui-là, il va lire avec moi. Méfions-nous de ces gens-là. Il n'y en a pas dans votre église, je le sais. Pas pour l'instant. Mais ça pourrait arriver. Paul annonce que grâce à Dieu, la folie de ses enseignants de pacotille sera dévoilée. Elle éclatera aux yeux de tous. Nous avons un Seigneur qui veille sur l'Église. Et heureusement, il est là aussi pour faire échouer les projets de Satan au travers d'hommes comme cela. Leur projet va échouer. Et Paul compare ces hommes à Jannès et Jambrès. Vous n'en avez jamais entendu parler, hein. Il n'y a que là que ces noms apparaissent. En réalité, ce sont des noms qui désignent les magiciens de Pharaon au temps de Moïse. Vous savez, ces magiciens. Moïse a jeté son bâton, il est devenu un serpent. Les magiciens ont jeté leur bâton, ils sont devenus des serpents. Mais le serpent, qui était le bâton de Moïse, a englouti les autres. Ah, puis après, il y a eu d'autres miracles que ces magiciens, ces mystificateurs ont pu faire aussi. Et ils ont détourné Pharaon de l'appel de Dieu. Parce que 10 fois, Pharaon a rejeté les appels de Moïse. Ça a été 5 fois de son propre chef, et après il est écrit, et Pharaon ne voulut pas parce que Dieu endurcit son cœur. Il a passé un seuil. Vous savez ce qu'on appelle le point de non-retour quand on va quelque part. On est allé trop loin du point de départ pour revenir en arrière. Donc il faut poursuivre pour aller jusqu'au bout. Bien Pharaon, il avait dépassé le point de retour. Il s'était laissé embobiner par ses magiciens. Et ces magiciens, eh bien, ils ont été apparemment démasqués, ce qui n'a pas réduit leur endurcissement. Il ne nous est jamais dit que ces magiciens sont devenus disciples de Moïse ou disciples de Dieu après ça. Au contraire, ils ont persévéré dans leur erreur, bien qu'ayant constaté que le Dieu d'Israël était plus fort que leur magie. Bien qu'ils aient constaté la puissance du Dieu d'Israël, eh bien, ils se sont obstinés dans leur erreur et ils ont entraîné leur perte et la perte de Pharaon. Regardez bien au-dedans de vous, si quelqu'un vient comme un Jannès ou un Jambrès, eh bien, leur folie éclatera au grand jour un jour. Mais ceux qui les auront suivis, eh bien, leur folie éclatera au grand jour aussi. Et c'est exactement ce que dit Paul. Ici, il y a ceux qui se laissent embobiner, les candides, les naïfs. Ces naïfs qui sont sous l'aspect de femmes ici, mais rassurez-vous, il y a des hommes qui se laissent embobiner aussi. Donc, il y a ces gens qui sont coupables de ne pas avoir cherché autre chose, de ne pas avoir cherché dans la parole de Dieu. Je pense que ces femmes qui sont décrites ici sont des femmes qui n'ont jamais choisi la simplicité de l'Évangile pour se tourner vers Christ. Elles ont cherché à avoir des connaissances toujours supérieures. Paul en parle à un autre endroit. Elles accumulent les connaissances et n'apprennent jamais rien finalement. N'apprennent en tout cas pas comment il faut se tourner vers Christ pour être sauvé. Voilà. Méfions-nous des Jannès et des Jambrès. Mais ne soyons pas de ceux qui se précipitent à la suite de ces mystificateurs. Je poursuis, parce que sinon je vais dépasser de beaucoup l'horaire. Hein. Alors, verset suivant. On va lire les versets 10 à 13. « Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelles persécutions, en effet, n'ai-je pas subies ? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. » Comme dans la première épître, Paul engage Timothée, engage, c'est le sens littéral, il l'a recruté, il l'a engagé, à poursuivre le combat qu'il doit mener à Éphèse. Et ce combat, ce n'est pas une mince affaire. Ça nécessite endurance, assurance, prière, piété, amour, foi et pureté. Dans la première épître, il dit à Timothée « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Travail et courage sont réclamés par le Seigneur à ses serviteurs fidèles. » Ça me rappelle toujours, et je cite souvent cette phrase de Winston Churchill, quand il a été nommé Premier ministre pendant la dernière guerre, les gens disaient « ça y est, on va être sauvés ». Et qu'a dit Winston Churchill ? Il vous a dit « je vous promets du sang, de la sueur et des larmes ». Et les Anglais ont marché. Et ça fait que l'Angleterre a été parmi les vrais vainqueurs. Les Français n'ont pas vraiment été vainqueurs, ils ont été libérés. Mais ça a fait que les Anglais ont fait partie des vainqueurs de cette guerre, du sang, de la sueur et des larmes. Paul ne promet pas des jours meilleurs à Timothée. Il dit « nous sommes dans les derniers temps ». C'est la pagaille au dehors, mais au-dedans, ça peut être pire. Il dit « il faut t'armer de courage, il faut t'attendre à avoir des souffrances, il faut t'attendre à devoir travailler, mais à devoir travailler dans la peine ». Paul parle de son ministère, il en parle souvent dans ses lettres, mais pas pour se mettre en avant. Pour dire que certains, il parle des faux prophètes qui se sont introduits dans les églises, et il dit, mais ils se disent apôtres, mais moi j'ai le droit de le dire plus que tous. Voilà, ce n'est pas grâce à son éloquence, ce n'est pas grâce à des fables habilement conçues que Paul a transmis l'enseignement de Dieu, mais c'est par une démonstration d'esprit et de puissance, disent les anciennes versions. Par la démonstration manifeste de l'action du Saint-Esprit dans sa vie et au travers de lui. C'est par l'exemple de sa vie consacrée à Dieu. Vous savez qu'il avait des équipiers, il avait des disciples en quelque sorte. Il emmenait avec lui des apprentis. Timothée fait partie de ses apprentis. Il y avait Silas et bien d'autres. Il y avait le médecin Luc aussi qui a écrit le livre des Actes. Et Paul les enseignait pas seulement par ses discours. Les discours, c'était pour l'extérieur, quand il parlait aux Grecs d'Athènes. Les discours, c'était une partie de sa vie d'évangéliste. Mais l'autre partie, c'est d'être un mentor, on emploie ce mot aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a enseigné des disciples comme Jésus a enseigné des disciples. Les disciples, ce sont ceux qui écoutent ce que dit le maître, mais ce sont ceux qui regardent aussi comment le maître vit. Et ça, c'est une leçon plus difficile à donner, c'est une leçon plus difficile à accepter aussi. Paul dit comment il a vécu pour inciter Timothée à vivre comme lui, parce qu'il est obligé de vivre comme ça, parce que les gens le regardent, parce qu'il est un exemple dans son église d'Éphèse, parce que les gens regardent à lui pour savoir comment se conduire, et pas seulement en écoutant ses paroles. Vous pouvez dire 10 000 mots, si votre vie ne confirme pas ce que vous dites, votre message ne passera jamais. Je m'adresse ici à ceux qui enseignent. Mais vous allez voir que tout le monde doit enseigner. Jésus avait annoncé, alors, et Paul conclut, et chaque fois le Seigneur m'en a délivré, en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu, par leur union avec Jésus-Christ, connaîtront la persécution. Alors, nous ne connaissons pas la persécution. Est-ce que nous devons le regretter ? Je ne pense pas. Je pense que si nous sommes au cœur du combat, finalement, nous aurons des persécutions. Quelquefois, la persécution vient de manière insidieuse. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui nous attaque avec un couteau, hein, la persécution. C'est quelquefois aussi des gens qui disent du mal de nous, qui nous calomnient, qui se cachent dans l'ombre et qui veulent nous faire du mal, qui montent des machinations, ça existe. J'en ai connu aussi des gens comme ça. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, disent les vieilles versions, seront persécutés. C'est aussi ce que disait Jésus. Combien de fois il l'a répété à ceux qui devaient le suivre, à ceux qui étaient ses disciples. Vous aurez des persécutions. Et Paul dit aussi à Timothée dans la première épître, « En effet, si nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le bienfaiteur de tous les hommes, et au plus haut point de ceux qui se confient en lui. » Paul dit que Dieu est le bienfaiteur de ses serviteurs, mais il ne dit pas pour autant que ses serviteurs n'auront aucune épreuve. Il ne dit pas pour autant que ses serviteurs n'auront que bonheur. Et il ne dit pas que ce sera tous les jours leur anniversaire, qu'ils auront tous les jours des bougies à souffler. Mais il dit au contraire qu'ils auront des difficultés. Alors, il parle des difficultés qu'il a éprouvées dans trois villes, Paul. Et la troisième qu'il cite, c'est Lystre. Alors Lystre, c'est un cas particulier, hein. C'est un endroit où Paul a été accueilli comme s'il était Hermès, le dieu Hermès, et Barnabas comme le dieu Zeus. Les gens ont voulu leur offrir des sacrifices. Ils ont amené un taureau avec des guirlandes, etc., pour offrir un sacrifice. Et Paul a eu toutes les misères du monde à arrêter ce blasphème. Nous ne sommes que des hommes. Et juste après, il y a des juifs qui arrivent à Lystre. Et les juifs disent, mais ces hommes-là, ce sont des pestes, il faut vraiment... Et Paul va finir par être lapidé au même endroit, à Lystre. Après avoir été adulé, il est lapidé. Mais c'est aussi à Lystre que Paul rencontre Timothée. C'est dans cette ville qu'il rencontre sans doute aussi la mère et la grand-mère de Timothée. C'est à Lystre qu'il recrute Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit donc, il le circoncit à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Alors on ne sait pas ce qu'était son père vraiment, mais il n'était pas un ami des juifs apparemment. Il n'était pas un craignant Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui était devenu un prosélyte des juifs. Sinon, Timothée aurait été circoncis. Et Timothée n'est pas circoncis. Paul est obligé de le faire parce qu'il craint encore la réaction des juifs autour de lui qui verraient un non-juif annoncer même Jésus-Christ. Alors on parle ici des choses que Timothée a apprises. Je crois qu'on va lire la suite, ce sera mieux. Pour toi, verset 14, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. De qui ? Il sait de qui il a appris ces choses. Et Paul le sait aussi. Il a appris ça de sa mère et de sa grand-mère. Comment s'appelait sa mère ?
Louise.
C'est sûr ?
Ouais.
Et sa grand-mère ?
Louise.
C'est bien. Vous avez bien appris à l'école du dimanche, là, les leçons. Il ne faut pas inverser. Hein. C'est Louise, la grand-mère, et Eunice, la mère. Bon, ces femmes qui étaient des femmes pieuses, des femmes juives pieuses, elles ont enseigné à Timothée les Écritures. Je crois que c'était à partir de l'âge de 5 ans déjà qu'on commençait à enseigner aux enfants ce qui était dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans le Tanakh, dans la Bible des Juifs. Et d'ailleurs, tous les ans, les enfants étaient priés, enfin pas priés, non, ils étaient obligés d'assister à certaines célébrations des fêtes juives, comme la Pâque par exemple, où les enfants devaient, tout petits, devaient commencer à fouiller dans toute la maison pour trouver des miettes de pain, parce qu'il fallait absolument pas qu'il y ait de levain dans la maison pendant qu'on célébrait la Pâque. Alors les enfants à quatre pattes allaient sous les tables, ont jeté d'ailleurs des miettes exprès pour qu'ils en tombent. Et puis voilà, ils participaient. Et au cours du repas, il fallait que l'aîné des enfants pose cette question. « Père, pourquoi est-ce que nous faisons ces choses ?» Et le père racontait comment le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. C'était l'école du dimanche avant l'heure. Hein. C'était l'école du dimanche dans la famille. Et combien c'est précieux. Timothée a... peut-être pas reçu tout cet enseignement, puisque son père faisait peut-être pas la Pâque, hein, c'est certain, mais en tout cas, il a bien été enseigné dans la connaissance des Écritures. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors c'est important. C'est important de connaître cela et je vais y revenir. Pour servir fidèlement le Seigneur, il n'est pas suffisant de se détourner du mal. En fait, il y a deux axes à ce texte. De Timothée 3. La première chose, c'est se détourner, et l'autre chose, c'est s'accrocher. Exactement, il faut se détacher de certaines choses, et il faut rester attaché à d'autres. Il faut se détacher de l'enseignement et de l'exemple du monde, et il faut rester attaché à l'enseignement qu'on a reçu, pourvu qu'il vienne de la Bible, bien sûr. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeure, il n'est pas dans toutes les versions, le verbe demeurer. Mais moi, j'aime bien ce verbe demeurer parce que le verbe demeurer, il a plusieurs sens. Demeurer, ça veut dire rester. Rester là. Demeurer en ma présence. Mais ça ne veut pas dire que ça. Demeurer, ça veut dire habiter. Vous habitez chacun dans votre maison. Vous demeurez dans votre demeure. Votre demeure, c'est votre maison. Et Timothée devait demeurer, c'est-à-dire pas seulement rester, il devait habiter. Il devait habiter dans la Bible, en gros, si je fais un raccourci. La Bible, en tout cas, devait l'habiter. Elle devait être présente en lui, il devait la connaître. Je n'insiste pas souvent sur le fait d'apprendre des versets par cœur, mais je profite de l'occasion pour le dire. C'est toujours une grande richesse de pouvoir mémoriser des versets. Je connais des gens qui ont mémorisé des textes entiers, des épîtres entières. Et c'est très précieux quand on connaît le sort des soldats américains au Vietnam, qui dans leur prison n'avaient rien. Et certains, dans certaines cellules qui étaient chrétiens, ont réussi, après avoir mémorisé des versets, à écrire sur les murs de leurs cellules, en mettant bout à bout les versets que l'un et l'autre pouvaient se rappeler. Ils ont pratiquement réécrit la Bible sur le mur de leur cellule, de cette façon. Il y a des jours où nous n'aurons plus ça dans les mains, peut-être. C'est précieux de mémoriser. Moi, je ne sais pas faire. Alors, demeurer, c'est quand même une leçon bizarre pour un évangéliste, parce que Timothée était un évangéliste, un globe-trotteur. Il est allé partout avec Paul, ou presque partout. Quelquefois, il s'est arrêté. Là, il demeure à Éphèse. Mais bon, demeurer, quand on a ça dans les ongles, dans le sang, dans les ongles, d'aller plus loin, d'annoncer l'évangile encore plus loin, c'est quand même difficile. Alors, il ne restait pas physiquement longtemps au même endroit, mais il devait, en tout cas, avoir une demeure spirituelle. Et cette demeure-là, cette demeure spirituelle devait être immuable. Il ne devait jamais la quitter. Il ne devait jamais se détacher de l'enseignement de la Bible. Alors, ce n'était pas fini les déplacements pour Timothée. Ne croyez pas qu'il a fini sa vie à Éphèse. En réalité, Paul lui demande dans le chapitre 4 de le rejoindre à Rome, puis dès que possible. Et puis, il doit prendre Marc au passage parce qu'il lui est bien utile. Et puis, il doit passer par Troas pour y chercher un manteau et des livres de Paul. Il doit continuer à voyager. À un autre endroit, on lit que Timothée a été libéré. Ça veut dire qu'à un moment aussi de sa vie, il a été emprisonné, peut-être à Rome en visitant Paul, on n'en sait rien. Bref, il n'a pas arrêté de bouger. Mais je suis persuadé qu'il a continué à bâtir sa demeure sur ces vérités de l'Évangile, ces vérités de l'Évangile peut-être pas, mais ces vérités bibliques, qu'il a acquises depuis l'enfance. Qu'il a acquis et reçu avec une pleine conviction et reconnu comme certaine. J'insiste aussi sur ces mots. Il a accueilli ces choses, qu'il a reçues avec une pleine conviction. Nous ne devons pas croire la Bible à moitié. Nous ne devons pas croire la Bible en surface. Nous ne devons pas croire des choses et puis d'autres en même temps. Nous devons accueillir les choses qui sont écrites pour nous avec une pleine conviction. Parce qu'on les a reconnues certaines à un moment. Il n'y a pas un moment où on doit arrêter de les reconnaître comme certaines. Les choses de la Bible sont certaines. Et nous devons bâtir nos convictions sur ces vérités. Timothée est encouragé à continuer à se nourrir de cet enseignement solide pour pouvoir lui aussi en nourrir les frères et les sœurs. Parce que c'était l'objectif de Timothée aussi, de prêcher. Dans 1 Timothée 4,6, il décrit « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » J'ai parlé tout à l'heure de l'enseignement des enfants juifs. Dès 5 ans, ils commençaient à apprendre ce qu'était l'histoire de leur peuple et l'histoire de Dieu dans leur peuple. Eh bien, nous sommes tous des enseignants. Parce qu'il y a un moment où nous devons enseigner nos enfants dans ces vérités bibliques. Et puis il y a d'autres moments où nous devons parler aux autres de ces vérités publiques. Il faut que nous en soyons nourris pour pouvoir les en nourrir. Nous sommes tous des enseignants, quoi que vous pensiez. J'ai cité encore ici, un dimanche, cet épisode de la multiplication des pains. Rappelez-vous, cette foule, 5000 personnes, il n'y en a pas un qui a apporté un goûter. Et puis il y a un gamin, je ne sais pas quel âge il a, je ne sais plus si on le sait. Mais il y a un gamin qui vient enseigner tout le monde, y compris les apôtres. Il apporte son goûter. Il n'a pas dit une parole. Mais je pense qu'ils ont tous été enseignés ce jour-là. Aussi bien les 5000 personnes que les 12 apôtres. Parce que ce jour-là, il a été le seul à avoir une solution au problème. Parce que ce jour-là, il a été utilisé par Dieu pour les enseigner. Non seulement en prendre un goûter, mais aussi à le partager. Voilà. Nous avons tous un rôle d'enseignement à un moment ou à un autre. Ça peut être qu'une seule fois dans notre vie. Ça peut être tous les jours de notre vie. Ça peut être quand on est jeune. Ça peut être aussi quand on est très vieux. On a toujours besoin d'être équipé. Alors pour être équipé, je vais passer au verset 16. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Timothée doit continuer à se nourrir, mais nous aussi, parce que nous aussi, nous sommes des enseignants. C'est utile à tous les serviteurs de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas serviteur de Dieu ? Je prends les copies à la fin. C'est utile pour tous les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous. Alors, il y a un texte de Paul qui dit, dans 2 Corinthiens 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est un verset qu'on aime bien, parce que nous sommes devenus des nouvelles créatures. « Les choses sont devenues nouvelles », écrit l'apôtre Paul. Les choses, c'est quoi les choses ? Toutes choses sont devenues nouvelles, c'est-à-dire tout. C'est-à-dire qu'on a besoin de se renouveler tout le temps. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller chercher d'autres bouquins dans les rayons de la bibliothèque ou à la librairie. Je sais, moi, je fais la promotion de bouquins tout le temps, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de rester attaché aux choses anciennes de la Bible, parce que la Bible est un livre ancien. Mais la Bible est un livre ancien, mais beaucoup plus moderne que tout ce qu'on peut écrire aujourd'hui. Parce que la Bible, on a encore besoin de la comprendre aujourd'hui, on ne comprend encore pas tout, il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra jamais que quand on sera dans le ciel. Mais on a besoin de la Bible avant tout. Ne croyez pas tout ce que disent les commentaires, même ceux que je fais ce matin. Croyez simplement ce qui est écrit dans la Bible. Et si vous ne comprenez pas, demandez qu'on vous explique, mais cherchez à connaître la Bible. C'est utile pour chacun de nous, parce qu'il n'y a pas de membre inactif dans le corps de Christ. Imaginez que le corps de Christ soit un corps d'handicapé. Alors, j'ai rien contre les handicapés, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais le corps de Christ, quand même, il ne peut pas y avoir une main paralysée, il ne peut pas y avoir une jambe qui ne marche pas, il ne peut pas y avoir le foie de travers dans le corps de Christ. Tous les membres, tous les organes sont utiles dans le corps de Christ, à des degrés divers, hein, mais ils sont tous utiles. Donc nous sommes des membres actifs, nous avons besoin de cette source ancienne de la Bible, parce que c'est une source ancienne et une source nouvelle, c'est une source qui nous donne la vie, c'est ce que dit par le Saint-Esprit, cette source qui est la Bible nous donne la vie. Ainsi, qu'on soit jeune, âgé, qu'on soit africain, européen ou asiatique, d'où qu'on soit, eh bien, on a besoin de la Bible. Qu'on soit globe-trotteur ou sédentaire, nous avons tous besoin d'avoir une valise prête. Rappelez-vous, dans ces temps qui sont les derniers. Alors on doit toujours être prêt à partir. Alors nous devons toujours avoir une valise prête, ou un sac à dos, hein, c'est ce qu'on préfère. Et dans ce bagage, il y a des choses qu'on aime bien avoir. Il y a une question qui est complètement idiote, mais qu'on pose souvent. Si vous étiez tout seul dans une île déserte, qu'est-ce que vous aimeriez avoir emporté avec vous ? La réponse la plus sensée que j'avais entendue jusqu'à présent, c'est un couteau suisse à 12 lames.
À quoi ?
Un couteau suisse à 12 lames. Un canif, s'il vous plaît. Eh bien, je vais vous dire, il y a quelque chose qui est beaucoup plus utile pour les serviteurs de Dieu, hommes, femmes, enfants, et de quelque endroit qu'ils soient. Une chose qui est bien plus utile, c'est la Bible. C'est difficile à conserver, hein, surtout si on est dans une île déserte et qu'on a dû nager, mais bon, c'est pourtant ce qui est le plus utile pour les serviteurs de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, etc. Il vaudrait la peine de s'attarder à chacun des mots de cette phrase. Vous savez, c'est un des textes principaux du Nouveau Testament. On parle toujours de Jean 3,16, qui est le verset central de l'évangélisation. Mais il faut retenir absolument 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Voilà. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Voilà. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alors il y a des mots différents, corriger, instruire, etc. J'ai pris différentes traductions et puis les mots changent, mais c'est toujours la même chose. On a besoin de la Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le véritable auteur de la Bible, c'est pas les gens qui tenaient le stylet ou la plume, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était derrière ces gens qui ont écrit. C'est lui le véritable auteur de la Bible. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alors il y a des versions variantes qui disent toute écriture est inspirée de Dieu. Je ne pense pas que les écrits de Shakespeare ou de Victor Hugo soient inspirés de Dieu, mais toute l'écriture, en tout cas, que Dieu nous a donnée, est inspirée de Dieu. Il n'y a pas un seul verset, j'allais presque dire un seul mot, mais là c'est un autre débat. Je vous invite à mon cours, si vous voulez, sur Saint-Esprit, ou l'inspiration. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire chacun des versets de la Bible peut vous parler, à vous personnellement. Il a été écrit pour des gens d'autres lieux, d'autres temps, etc. Mais il a été écrit aussi pour vous. Et ce que Paul écrit à Timothée, c'est aussi à nous qu'il écrit. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile. Beaucoup plus utile qu'un couteau à 12 lames. Vous aurez besoin de la Bible partout où vous irez. Partout, vous aurez besoin qu'elle vous enseigne, qu'elle vous nourrisse, etc. Et qu'aussi, pareil, vous puissiez enseigner d'autres. Je termine, rassurez-vous. C'est vrai, on est allé au Mont-Saint-Michel. Alors, le Mont-Saint-Michel est tout entouré de sable mouvant. Enfin, on en a parlé déjà. Et alors, on est étonné de voir cette masse énorme qui ne s'enfonce pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est sur un rocher. Le Mont-Saint-Michel, c'est un mont, c'est un rocher. Alors, tout autour, il y a des sables mouvants. Alors, on a appris toutes des leçons sur les sables mouvants. Hein. Vous savez que vous pouvez marcher sur du sable dur pendant des kilomètres sans être inquiété nullement. Vous pouvez aussi aller au bord de l'eau et vous enfoncer dans la gadoue. Et vous enfoncez. Là, on vous dit, c'est pas grave, vous vous enfoncez jusqu'à mi-mollet, c'est pas grave. Il faut toujours marcher, il ne faut pas s'arrêter. Si vous vous arrêtez, vous allez rester sur place. Mais il faut avancer. Et puis, quand vous êtes sur le sable dur, on vous dit, « Ah, vous croyez que ce n'est pas des sables mouvants ? » Je vais vous montrer le contraire. Alors, vous vous mettez assis sur une plaque de sable bien dure, puis vous vous mettez à sauter comme ça. Puis tout d'un coup, la plaque de sable se met à tanguer. Et le guide vous dit, « C'est un sable mouvant. » Et au bout de 5 minutes, il s'arrange pour être enlisé, pas jusqu'à la taille, jusqu'à la hauteur du short. Et il vous montre qu'on peut toujours s'en sortir. Alors évidemment, on peut toujours s'en sortir d'un sable mouvant, enfin c'est lui qui le dit, il y a quand même des gens qui sont morts. Hein. Mais ici, on est sur un rocher. Autour, c'est les sables mouvants. On peut toujours s'y aventurer, surtout s'il y a des gens qui sont en train de s'y perdre. On peut toujours venir en aide aux gens, mais sachant que c'est des sables mouvants. Sachant que autour, et même quelquefois dans l'église, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'appuyer. On peut s'appuyer que sur notre rocher. Notre rocher, c'est Jésus-Christ, et on le connaît que par la Bible. J'ai dit tout à l'heure que Éphèse, on en parle aussi dans l'Apocalypse. Vous savez ce qu'en dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Hein, c'est la première des 7 églises qui est mentionnée, écrite à l'ange de l'église d'Éphèse. Et alors, elle est félicitée, l'église d'Éphèse. Elle est félicitée pour avoir tenu bon avec persévérance contre les faux apôtres. Ah ! Les leçons de Paul ont porté. Non seulement ce qu'il leur a dit à Milet, mais ce qu'il a dit au travers de Timothée. Et ils ont tenu bon avec persévérance contre les faux apôtres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On revient au mot amour, et toujours dans le sens, l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus-Christ. Parce qu'ils ont lutté avec courage, avec persévérance, avec ténacité. Ils ont remporté des victoires contre la secte des Nicolaïtes, par exemple. Mais ils ont oublié d'où ils étaient tombés. Repens-toi et rappelle-toi d'où tu es tombé. Et en fait, toutes les victoires sont acquises grâce à celle de Jésus-Christ sur la croix. S'il n'a pas remporté cette victoire, ce n'est pas la peine de nous battre. Nos victoires à nous, elles lui appartiennent. C'est de lui que nous tenons la victoire finale. Alors, combattons et prions. Notre texte est basé sur deux idées. Se détacher J'espère que vous avez appris un peu de quoi vous détacher aujourd'hui. Et restez attachés. J'espère que vous avez aussi appris un peu de ce, quoi vous, à vous devez, de ce à quoi vous devez vous attacher. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole écrite, parce qu'elle a servi de base, de nourriture à énormément de juifs et d'israélites avant nous, parce qu'elle nous sert aussi de base et de nourriture. Nous ne voulons pas nous détacher de cette parole. Merci pour ta parole incarnée aussi en Jésus-Christ, parce que tu es venu vers nous, parce que tu as parlé par lui. C'est à nous que tu as parlé, à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, tu veux nous faire sortir de nos sables mouvants, tu veux nous mettre les pieds à sec sur le rocher qui est Jésus-Christ. Seigneur, que nous ne soyons pas inattentifs, que nous ne soyons pas détournés de ce message que tu nous adresses. Venons à Jésus-Christ ensemble. Merci Seigneur de nous garder attachés à toi, au travers des épreuves comme au travers des bonheurs. Nous t'en prions en Christ. Amen.